Bienvenue à l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Bonjour à tous, ici votre animatrice Isabelle. Bienvenue à l'émission Un jour à la fois. Une émission dédiée au mouvement des alcooliques anonymes, une association internationale d'hommes et de femmes qui avaient un problème avec l'alcool. Non professionnels, politiques ou religieux, ils s'autofinancent et on les retrouve presque partout. Sans règles d'admission, tous ceux et celles qui veulent faire quelque chose à propos de leurs problèmes d'alcool peuvent devenir membres. Basé sur les 12 étapes des AA, un groupe de principes de nature spirituelle qui, lorsque mis en pratique comme mode de vie, peuvent chasser l'obsession de boire et permettre à celui et celle qui souffre de se sentir heureux et utile. Nous recevons donc aujourd'hui, comme à chaque semaine, un ou une invitée, membre de cette fraternité, qui vient nous parler de sa vie, des difficultés de son passé et de son expérience actuelle de relèvement. Alors, je vous présente aujourd'hui Paul, un jeune homme qui est dans son rétablissement et puis qui a une belle grande allure, parce que vous ne le voyez pas, mais il a au moins 6 pieds. Je lui laisse la parole et je lui souhaite la bienvenue. Alors, vas-y, Paul.
Merci beaucoup, Isabelle. Alors, bonjour tout le monde, mon nom est Paul et je suis une alcoolique. Et comme Isabelle disait, je mesure 6 pieds 6. Alors, tout le monde m'appelle Tall Paul, le grand Paul en français. C'est un grand plaisir d'avoir la chance de venir puis partager mon histoire pour tout le monde. Tu sais, aujourd'hui, j'ai 35 ans et ma première connaissance des AA, j'étais dans mes vingtaines. Tu sais, alors j'étais un petit jeune déjà. Loin avant ça, tu sais, si je recule à mon enfance, je suis le plus vieux de 3 enfants et... Les docteurs ont dit que j'étais un bébé miracle. Mes parents n'étaient pas supposés d'avoir des enfants. Il y avait plein de complications. Mais mon père, comme un bon orgueilleux, il ne voulait pas adopter. Ils ont essayé. Puis à un moment donné, ma mère a tombé enceinte. Et dès le début, j'étais un problématique, on peut dire. Parce que j'ai sorti les pieds en premier. Alors, j'étais déjà un problème commençant très jeune pour mes parents. Et, tu sais, je peux regarder mon enfance puis dire, ah, tu sais, j'ai commencé à boire à cause de ci ou à cause de ça. Mais, tu sais, quand je prends le temps de le regarder, j'ai juste tombé en amour avec le feeling de l'alcool quand j'ai commencé. Ma première consommation était à 12 ans, mais c'est vraiment à l'âge de... juste après mon 16e anniversaire où ça a commencé fort. Puis, pour moi, j'étais un blackout dès le début. À l'âge de 16 ans, j'étais un petit nerveux, timide. T'sais, j'allais à une école secondaire privée pour des gars, alors je connaissais pas comment parler avec les femmes. Alors, quand je commençais à aller dans les house parties, les parties dans les sous-sols des parents et tout ça, et j'ai commencé à boire, j'ai changé personnalité au complet. J'étais le centre de l'attention, tout le monde voulait être alentour de moi. Et je voulais toujours revivre le même feeling. T'sais, je voulais avoir le même buzz, le même high. Tu sais, à un moment donné, comme je dis, j'ai fait mon premier meeting dans les vingtaines, alors le party a fini pas mal tôt pour moi. J'ai pas rentré dans les salles à cause que tout allait bien. Tu sais, il y avait des choses qui ont arrivé. Je m'appelle mon premier meeting comme c'était hier. Tu sais, comme je dis, c'était soit en 2006 ou 2007, quelque chose de même. J'ai rentré dans le sous-sol d'église un mardi soir. Il y avait un bonhomme qui il est venu me accueillir. T'sais, moi, comme je dis, je suis un petit de 6 pieds 6. Le monsieur mesurait à peu près la même grandeur que moi, mais était habillé tout en noir. Il avait des cheveux noirs, des lunettes noires, t-shirt noir, gros menton noir, des pantalons noirs, des gros bottes noires, tout noir. Puis il vient me parler de Dieu. Juste pour vous dire, je n'étais pas exactement prêt à écouter toutes ces paroles de Dieu. Mais la bonne chose que monsieur a fait pour moi, il m'a donné un gros livre, le gros livre des alcooliques anonymes. Puis j'ai encore ce gros livre-là. Le problème, c'est que le gros livre a passé plus de temps dans les tiroirs ou sous une étagère ramassant de la poussière que dans mes mains. Parce que j'ai fait mon premier meeting, comme je me suis dénoncé comme alcoolique. J'ai retourné chez mes parents pour dire j'ai fait un meeting, tu sais, tout allait bien, je me sens bien. Puis ça a fait sa job parce que j'avais pas besoin de retourner. Tu sais, j'étais guéri après un meeting. Jusqu'au temps que ça a clenché encore une fois, puis j'ai retourné pour une autre raison. You know? Moi, j'étais le type qui... Je faisais peut-être 1, 2, 3 mois clean. puis je retournais. Je trouvais toujours la raison pour retourner à dans la consommation. Tu sais, c'était juste autant que... C'était en 2015 où j'ai fait une thérapie. Mais la chose qui m'a amené là-bas, tu sais, j'ai entendu dans les meetings, si je ne me rappelais pas ma dernière consommation, c'est fort probable que ce n'était pas ma dernière. Même si ma date de sobriété, c'est le 19 juillet 2015, c'est vraiment la fin de semaine avant ça qui a vraiment tout changé pour moi, pour m'amener sur ce chemin où j'ai entré en thérapie. T'sais, je m'appelle de cette journée comme c'était hier. C'était le 10 juillet 2015, je finissais de travailler et j'appelle un de mes amis. Je dis « Hey, on va aller prendre quelques bières sur une terrasse. » Lui, mon ami, je me suis entouré des smarts parce que lui me dit « Tu sais, ça va pas être juste quelques bières. Ça va commencer avec quelques bières. Tu vas aller commencer à jouer les machines. Il dit, pense aux conséquences. Moi, je dis, je m'en fous des conséquences. Tu sais, ça m'intéresse pas de penser aux conséquences. Alors, lui a resté chez lui. J'appelle mon frère. Il vient chez moi. On commence à boire. Puis, longue histoire courte, c'est l'alcool, les drogues, le jeu, puis les femmes pour le week-end, comme ça. Tu sais, j'étais parti sur le go pour deux journées. J'habitais avec mon ex, puis je savais quand elle quittait pour travail, j'ai rentré, je prenais une douche, changé de vêtements, puis je continuais, tu sais, pour deux journées. À la fin de tout ça, tu sais, auparavant, si je faisais des week-ends comme ça, parce que pour moi, le week-end, des fois, ça commençait le jeudi, ça finissait lundi, des fois, ça commence mercredi, ça finit dimanche, on savait pas c'est quoi le week-end pour moi. Après ce week-end-ci, j'ai jamais senti une vide de telle profondeur dans moi. Auparavant, j'avais un mauvais week-end, on peut dire comme ça, puis lundi, peut-être mardi, je me remettais debout. Ah, c'était un mauvais week-end, ça va passer, j'ai pas besoin de changer rien. Mais cette fois-ci, j'étais mort. Et sur papier, j'ai fait bien pire de choses, bien pire. Mais cette fois-ci, comme quelqu'un m'a dit, c'était juste la goutte d'eau qui a fait déborder la vase. T'sais, j'étais vraiment à ma limite. Et j'étais chanceux parce que durant la dérape, j'ai appelé à la maison Jean Lapointe pour demander de l'aide. Puis c'était, un bénévole qui a répondu au téléphone pour dire il faut rappeler lundi. Et, tu sais, je suis en gratitude pour être assez magané puis assez battu pour faire l'appel le lundi. Parce que j'ai appelé le mercredi, j'étais avec ma conseillère. Le jeudi matin, elle m'a appelé pour dire je peux rentrer n'importe quand pour faire une thérapie. Et le vendredi matin, j'ai parlé avec ma boss pour dire je vais aller en vacances pour 3 semaines pour faire une thérapie interne. Et c'était la meilleure décision que j'ai faite. Comme je dis, ma date d'abstinence, c'est le 19 juillet. J'ai pas arrêté après le week-end du 10-11-12 juillet. Et la folie dans tout ça, j'ai fait l'appel pour aller en thérapie. Tu sais, j'étais magané, je pleurais pas mal chaque jour. Mais c'était la fête d'un de mes amis. Alors, il a fallu que je sorte avec les boys pour dire un dernier, tu sais, ciao, bye, j'ai hâte de boire. Tu sais, je me suis réveillé le dimanche après-midi, la journée avant que j'entre en thérapie, puis je commence à dire, c'était pas si pire, tu sais. J'ai rien fait trop de mal, tu sais. Il n'y avait pas de la police, il n'y avait pas de bataille, il n'y avait pas ci, pas ça. Je ne m'appelle pas des bouts, mais c'était pas si pire, tu sais. Je commence à me raconter, j'ai-tu vraiment besoin d'aller en thérapie? Non. Puis j'ai entré en thérapie le 20 juillet 2015. Puis même le matin, même, je suis devant la centre de thérapie avec mon ex. Puis c'est pas elle qui a fait l'appel pour aller en thérapie. Mais je parlais comme... J'étais comme un enfant sa première journée d'école. Tu sais, je veux pas y aller, je vais faire ci, je vais faire ça, je vais faire des meetings, je vais... Tu sais, c'est moi qui a fait l'appel, c'est moi qui étais magané, puis c'est moi qui voulais pas aller en thérapie non plus. Et la manière que je disais ça. T'sais, moi, j'étais plus confortable dans la merde que je connaissais que s'il y a quelque chose d'autre qui peut peut-être changer ma vie. You know? Et c'est exactement ça qui m'est arrivé. Quand je suis allé en thérapie, ma vie a vraiment, 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 vraiment changé. Avant de rentrer en thérapie, j'avais fait peut-être, je pense, un 4 ou 5 mois clean. Et quand j'ai entré en thérapie, tout a changé pour moi. T'sais, moi, je pensais auparavant, dans la vie, il y avait plein des hasards, t'sais, la coïncidence, des choses qui arrivent, puis... c'était weird. Mais en thérapie, tout a vraiment cliqué pour moi pour montrer comme, tu sais, j'étais arrivé à ce point-là pour une raison. Tu sais, en faisant un meeting, même quand j'étais dans les rechutes, je savais que j'avais une problématique de consommation, tu sais, puis je savais que je perdais la maîtrise de ma vie. j'étais même, tu sais, je croyais même en quelque chose, une puissance supérieure. C'est fou quand je le raconte, mais je priais quand j'étais dans la consommation. Tu sais, je priais pour pas de me sortir de cette situation-là, mais comme je voulais minimiser les effets négatifs secondaires qui vont venir avec ma consommation. Alors, je priais comme, aide-moi à pas me tuer, à tuer quelqu'un d'autre, à blesser ci, à ça, tu sais, blesser des inconnus dans les bars. Je priais pour des choses comme ça. Et puis, la manière que je la raconte maintenant, je dis, je jouais le rôle de Dieu pour Dieu. Je disais comment les choses devraient y aller, tu sais, dans les yeux de Paul. C'est comme ça que je voyais les choses. Mais, comme je dis, je pense que j'étais juste assez battu quand j'étais en thérapie. Même la chose, comme j'ai rentré là, c'était, comme je dis, juillet, alors on était dans la saison des allergies. J'entre dans une grosse salle, il y a plein des trois longues tables avec plein de boîtes de Kleenex. Moi, je pensais que les Kleenex étaient là pour les allergies, mais j'ai vite appris que c'était pas pour les allergies, parce que j'avais besoin de pleurer, tu sais. La manière que je le vois, j'étais constipé émotionnellement, tu sais. J'ai bloqué les émotions tellement avec la consommation. Puis là, quand j'étais en thérapie, il y avait du monde qui venait partager leurs expériences, leur histoire, comme je fais pour vous autres. Et je me rappelle même pas la nom de la fille, sa face, rien. Mais elle a commencé à partager, puis moi, les larmes, ça commence à rouler. Ça commence, puis je pleurais. Et j'avais absolument besoin de ça.
Oui, alors merci Paul pour ce premier segment de ton partage de ta naissance où tu étais sûrement un tout petit bébé jusqu'à maintenant, 6 pieds 6, hein? La belle histoire d'un alcoolique, hein? Qui rentre pour sa première fois en thérapie, la thérapie de Jean Lapointe, le 20 juillet 2015, et puis qui a probablement fait sa première étape d'être battu, d'arriver à son bas-fond. Alors, nous allons passer à la pause pour entendre par la suite, la suite de son histoire.
Comme une force de la nature, l'alcool commence à détruire notre monde. Le chaos nous envahit. Nous perdons le contrôle de notre vie. Mais on peut arrêter la tempête. Les alcooliques anonymes peuvent nous aider à traverser la tempête un jour à la fois. Dans les jours sombres, il y a de l'espoir. Il y a les alcooliques anonymes. Si l'alcool est devenu un problème dans votre vie, nous sommes dans l'annuaire téléphonique et sur le site aa.org. Les alcooliques anonymes, nous pouvons aider.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Voici maintenant un court texte inspiré de la littérature AA, aujourd'hui tiré des réflexions quotidiennes, réflexions de membres des AA à l'intention de tous les membres. Alors, je vous lis la page du 24 juin. « Quand je suis arrivée chez les AA, j'étais démolie par l'alcool et je voulais me défaire de l'obsession de boire, mais je ne savais pas vraiment comment m'y prendre. J'ai décidé de rester avec les AA le temps d'apprendre comment avaient fait celles et ceux qui étaient passés par là avant moi. Tout à coup, je me suis surpris en train de penser à Dieu. On m'avait dit de choisir une puissance supérieure, mais je n'avais aucune idée de ce à quoi cela pouvait ressembler. J'ai découvert qu'il y avait beaucoup de puissances supérieures. On m'a dit de rechercher Dieu tel que je le conçois, qu'il n'y a pas de doctrine de la divinité pour les AA. J'ai trouvé une puissance qui me convenait et je lui ai demandé de me redonner la raison. J'ai perdu l'obsession de boire, un jour à la fois. La vie a continué et j'ai appris à vivre sans alcool. » Alors, c'est à la page 184. Nous allons poursuivre le partage de Paul. Paul nous a entré à sa thérapie. Il a commencé à nous expliquer comment ça s'est passé dans ses débuts, là, dans sa thérapie. Alors, Paul, à toi.
Puis, comme je disais, j'ai vite appris qu'il y avait beaucoup de travail que j'avais besoin de faire côté émotionnel. Et j'étais très, très, très chanceux. Mais aujourd'hui, je le vois comme être chanceux d'être battu à tel point parce que j'étais finalement prêt à écouter aux autres. Moi, j'étais le type que j'avais toutes les solutions. Je pouvais finir tes paroles pour toi. Moi, j'étais un tout savant. T'sais. Moi, je connaissais tout. Puis... j'étais pas prêt à écouter les autres. Moi, je voulais faire les choses à ma manière. T'sais, moi, j'ai fait plein de, comme je dis, plein de in and out avec les AA. Alors, je savais qu'il y avait votre méthode. Mais moi, je voulais faire ça à ma méthode. Mais le problème avec ma méthode, c'est que ça donnait mes résultats avec. Et comme je disais, moi, j'étais un type que j'avais une puissance supérieure. Je priais, mais j'étais toujours bloqué. Même quand je faisais les meetings, tu sais, des années avant ça, j'étais bloqué sur la troisième étape où ça parlait de confier ma volonté, ma vie aux soins de Dieu. Tu sais, je me rappelle même, j'allais dans les meetings, puis je demandais du monde comment le faire. Je savais pas, tu sais. C'était pas quelque chose que je pouvais mettre les mains là-dessus. Alors, j'ai souffert longtemps à cause de ça. Mais quand j'étais en thérapie, comme je pense, j'étais juste assez battu. Ils ont tout parlé du lâcher-prise. Ils disaient lâcher-prise, comme c'était un boxeur, juste laisse les gants, t'es fini. Tu sais, c'est comme ça qu'il faut procéder avec. Et comme je disais auparavant, tu sais, moi, j'étais le type que je voyais les coïncidences. Mais j'ai vite appris dans ma thérapie que, tu sais, toutes les choses arrivent pour une raison. C'était dans ma première semaine à la thérapie, j'ai descendu pour faire un meeting, puis il y avait un gars que je connaissais de meeting auparavant, et lui finissait un programme externe, puis il y avait deux livres sur lui. Il y avait les quatre accords toltaïques, puis The Power of Positive Thinking, la puissance du pensée positive. Puis il m'a donné ces deux livres-là, il dit « t'as pas grand-chose à faire ici en thérapie durant le week-end, lis les livres puis voir qu'est-ce que ça va te donner pour toi ». Et moi, j'ai commencé à lire La puissance du pensée positif. Puis c'était un livre qui était écrit dans, je pense, les années 30 ou quelque chose comme ça. Je ne m'appelle pas exactement la manière que c'est écrit, mais ça dit, tu visualises, tu pries pour, puis ça matérialise. Je pense que c'est quelque chose comme ça. Et moi, dans ma deuxième semaine de thérapie, c'était ma 30e anniversaire. Tu sais, j'ai passé mes fêtes en thérapie. J'ai reçu plein d'amour ce jour-ci, mais je me sentais tellement comme un loser. T'sais, j'étais en thérapie à cause que j'avais des problématiques. Je suis pas avec ma blonde, je suis pas avec ma famille, mes amis, tout le monde, t'sais, à cause de mes problématiques. J'étais tellement juste down cette journée-ci. Tout le monde me disait bonne fête, puis c'est ça, mais je voulais rien savoir de tout ça. Alors, dans cet après-midi-là, j'avais comme deux ou trois heures à rien faire. Et alors, je me suis allé coucher dans ma chambre, puis je me suis endormi avec l'idée que ma copine, mon ex maintenant, va venir me souhaiter une bonne fête. C'est la seule chose que je voulais. T'sais. Puis je me suis endormi avec cette idée dans ma tête. Et je ne sais pas si c'était une heure plus tard, une heure et demie, une 30 minutes, j'ai aucune idée. Mais il y avait un gars qui criait dans les couloirs, « Paul, Paul, Paul! » Je me suis réveillé, dit « Quoi? » Dit « Il y a une fille dehors pour toi. » Alors, je vais à la fenêtre, puis je regarde, puis c'était exactement la manière que je l'ai vu. Parce que je l'ai vu venir dans mon auto en plus, tu sais. Et j'étais content de l'avoir, mais c'est quelque chose assez petit comme ça que ça m'a montré comme si je prie pour les bonnes choses, il y a bonnes chances qu'ils vont arriver. Quelque chose assez petit de même. Puis ça m'a vraiment, 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 vraiment changé la vie. Parce que comme j'étais vraiment bloqué sur cette troisième étape. Mais après quelque chose comme ça, ça m'a complètement changé. Ça m'a aidé à vraiment confier, c'est ma volonté, ma vie. À ma puissance supérieure, comme je le vois, à Dieu. L'autre chose qui m'a vraiment, vraiment aidé quand j'étais en thérapie, comme je disais auparavant, j'étais un gros égocentrique. T'sais. Là-bas, la manière que ça fonctionne, moi, j'ai rentré en thérapie un lundi matin. Alors, il fallut que je sorte un lundi matin, trois semaines plus tard. Moi, je voulais sortir le dimanche matin. Puis la raison était à cause, c'était durant l'été, puis il y avait Heavy MTL, un concert heavy metal à Parc Jean-Drapeau, juste l'autre côté du Vieux-Port. Alors, mais, tu sais, ils m'ont parlé d'honnêteté. Alors, je suis allé parler avec ma conseillère, puis je l'ai raconté, je dis, regarde, j'ai demandé trois semaines de vacances. Tu sais, j'ai juste parti en vacances comme ça. Et je veux pas que le monde me demande, t'étais où pour trois semaines plus un jour? Tu sais, c'est qui revient un mardi des vacances? Alors, mais je dis, mais la vraie raison, j'ai promis à ma copine, mes amis, blablabla, que je vais être au concert avec eux autres. Puis elle m'a dit, regarde, vas-y, parler avec le directeur du programme, si tu te laisses aller, vas-y. Je raconte la même histoire au monsieur. Puis il me demande, il dit, penses-tu que c'est une bonne idée de sortir d'une maison de thérapie puis aller à un concert où il y a l'alcool, les drogues puis le casino juste à côté? Puis moi, je le regarde, puis avec toute une face sérieuse, je dis, mais je pense pas que c'est une mauvaise idée. Je dis, je pense que j'ai assez appris ici pour être bien là-bas dans cet environnement. Puis je vais me rappeler toujours de ses paroles, de ce qu'il m'a dit, parce qu'il m'a vraiment, vraiment bien shaké. Il m'a dit, toi vouloir venir ici puis faire tes trois semaines, moi un jour, c'est toi vouloir faire les choses à ta manière. Regarde où est-ce que ta manière t'a amené. T'sais? Il savait que moi, je filais pas du tout quand c'était ma fête, mon 30e. Puis il m'a donné la claque sur la gueule que j'avais besoin. Moi, je suis type comme, si tu veux me flatter sur la tête, tu vas me dire, ah, ça va bien aller, ça va bien. Non, tu sais, j'avais besoin d'être shaké comme ça. Puis en plus, c'était un vendredi après-midi. Lui, aller chez lui, il dit « Pense à ça durant le week-end, puis on se reparle lundi. » J'étais tellement fâché envers lui. Mais il avait raison. C'est grâce à lui que je suis encore clean aujourd'hui. À chaque année, tu sais, quand je célèbre mes... si tout va bien aller, ça va faire 6 ans cet été. À chaque année, je l'appelle, puis j'appelle ma conseillère pour les remercier, parce que c'est grâce à eux autres que je suis encore sur le bon chemin. Et mais bref, en tout cas, j'ai fini ma thérapie, j'ai pas allé au concert. Même en sortant de la thérapie, tu sais, je pense que j'étais comme prêt. J'étais prêt à battre le monde. J'étais vraiment, vraiment prêt. Je pensais que j'avais tous les outils pour sortir de thérapie. Et en sortant, ma copine vient me chercher, je rentre dans l'auto, puis moi, j'avais des attentes. T'sais, je pensais que ça va être le gros, elle va être contente de me voir après 3 semaines, elle va amener des fleurs, des balloons, t'sais, tout ça. Je rentre dans l'auto, puis elle est fâchée avec moi. Elle commence, mais tu m'as laissé dans la merde pour 3 semaines, tatatatatatatatatatatatatatatatatat. Et moi, la première pensée, c'est je vais te montrer, t'sais. En sortant de thérapie, j'avais des pensées à aller retourner dans la consommation, mais je me suis dit, ouf, on met ça au ralenti. T'sais, ils m'ont donné plein d'outils en thérapie, puis il faut les utiliser. T'sais. On est allé chez mes parents, on avait un beau souper, et peu à peu, je me suis mis au travail. T'sais. Moi, naturellement, je suis un homme paresseux. Moi, je veux mettre l'effort minime pour avoir les plus de résultats. Mais j'ai appris dans le rétablissement, il faut faire le travail, puis en masse. T'sais, moi, en sortant de thérapie, je faisais au moins 7-8 meetings par semaine. Puis ça, c'était en personne. T'sais, maintenant, on fait le meeting en Zoom, mais je faisais 7-8 meetings minimum en personne. Puis pour moi, comme je dis, le week-end, ça a commencé des fois un jeudi, des fois vendredi. Alors, je loadais mes week-ends avec des meetings juste pour passer le temps. Vendredi soir, samedi soir, dimanche matin, dimanche soir, juste pour passer les week-ends. Puis j'avais besoin de ça. T'sais. Auparavant, je voulais pas prendre les numéros de téléphone. Puis mon téléphone était plein de numéros. T'sais. J'ai plein de noms dans mon cellulaire, puis le nom de famille, c'est AA, tu sais. Je connais même pas les noms de famille, mais c'est surtout des AA. Et la seule chose que j'ai pas fait, comme il me disait tout de suite, j'ai pas trouvé un parrain tout de suite. Mais je me suis bien entouré avec des membres. Je faisais un meeting, je parlais avec le monde. Auparavant, je voulais pas déranger le monde, tu sais. Moi, je voulais pas t'appeler pour te dire que, tu sais, ça va pas, ça file pas. T'sais, moi, je pensais que je vais te déranger dans ta journée, que tu as ta propre vie. Mais j'ai vite réalisé que c'est ça que ça prenait. T'sais, alors, peu à peu, je faisais ça. Je faisais meeting. Je m'impliquais. T'sais. C'est ça qui m'a aidé beaucoup. Je m'impliquais dans meeting. À un moment donné, je commençais à faire du bénévolat à Jean-Lapointe. Ça m'a tellement aidé parce que je fais comme 2 années les vendredis soir, puis c'était tellement fun. T'sais, voir le monde qui rentrait en thérapie comme moi, puis 3 semaines plus tard, ils vont mieux. You know? Les meetings, la thérapie, mon bénévolat a tellement, ça a vraiment, vraiment m'aidé. Puis, comme je dis, je pensais toujours être un smart. T'sais. J'avais pas de parrain, puis je me suis dit, ah, peut-être j'ai pas besoin de parrain. T'sais. Je vais faire mes étapes toute seule, je vais écrire toutes les choses que j'ai. T'sais. Je veux pas raconter à un autre toute seule, je vais aller voir un prêtre, je vais raconter un 5e étape comme ça, puis je vais continuer. J'ai pas besoin d'autres personnes. C'est comme ça que je voyais le monde. Puis, à l'entour de mes 2 ans, j'ai trouvé mon premier parrain. Puis lui, tout de suite, m'a mis dans un atelier de 12 étapes. Puis ça m'a tellement aidé. Parce qu'il m'a mis dans un gang de sages. T'sais. Il y avait des gars de 25 à 30 ans d'abstinence. Il y avait même du monde qui ont appris comment lire avec le gros livre. Ça, c'est assez spécial, tu sais. Puis moi, dans mes 2 ans, je pensais que j'étais son plateau dans mon rétablissement. T'sais. Je pensais que, ouais, t'sais, ça peut aller mieux, ça peut aller pire, mais je suis OK sur mon petit plateau. Puis eux autres, la gang de sages, m'ont vite appris. Ils m'ont dit qu'il y a seulement 2 directions dans le rétablissement. Soit tu avances ou soit tu recules.
Ah, Paul! Paul nous explique assez bien comment il a commencé à croire la 3e étape. La 3e étape, c'est nous avons décidé de confier notre volonté et notre vie aux soins de Dieu tel que nous le concevions. Hein, dans sa thérapie, mais aussi à la suite de sa sortie, c'est là que c'est difficile. Hein? Mais là, lui, là, il s'est donné des outils pour réussir à ne pas consommer en sortant de thérapie. Et alors là, on va aller à la pause immédiatement pour ensuite pouvoir continuer à écouter son histoire.
Si l'alcool a perdu de son charme pour toi, et si tu ne peux pas arrêter de boire,
j'ai fait quelque chose et ma vie a changé.
J'ai maintenant des amis qui m'acceptent pour ce que je suis.
Nous sommes dans l'annuaire téléphonique, votre journal local ou sur le web. Les Alcooliques Anonymes.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois, en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Notre site internet, unjouralafois-émission.org, te donnera accès à nos tout nouveaux podcasts contenant toutes les émissions de l'année en cours, ainsi qu'à notre banque de fichiers de partage archivés de 2017 à aujourd'hui pour écoute sur tous vos appareils intelligents. On peut aussi y trouver les diverses heures de diffusion de nos collaborateurs radio et une adresse courriel pour toute question ou commentaire et peut-être même venir nous visiter en studio pour y partager ton histoire personnelle de rétablissement. Là, aujourd'hui, nous écoutons le partage de Paul. Alors, Paul nous explique maintenant comment il utilisait ses premiers outils appris en thérapie pour vivre dans le mode de vie, mais surtout aussi faire des meetings les week-ends, bien utiliser son temps justement pour se garder sobre. Alors, à toi, Paul.
Et ces paroles m'ont tellement aidé parce que, comme je disais, moi, je pensais être bien, mais je ne savais pas que peu à peu, je peux commencer à reculer, puis c'était ça exactement que j'étais en train de faire. Tu sais, je mettais les choses un peu en pause. T'sais, je mettais un peu moins d'efforts, peut-être un peu moins de meetings. Et dans ce temps-là, j'ai même commencé à parrainer du monde aussi. Mais j'ai vitement appris qu'il a fallu que je commence à faire plus et plus. Comme je disais avant, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Puis moi, naturellement, j'étais paresseux, alors je n'aimais pas faire le travail. Peu à peu, on a fait, je pense que c'était un intensif de 17 semaines, puis on a travaillé les 12 étapes. Puis ça a tellement aidé. T'sais, ça m'a pris tellement du temps pour trouver mon parrain, justement à cause... Moi, je voulais trouver la personne pour partager toutes mes affaires que j'ai jamais partagées avec personne d'autre. T'sais, je voulais trouver la personne, puis j'étais chanceux de la trouver. T'sais, c'est pas mon parrain aujourd'hui, mais je suis encore en gratitude envers lui parce qu'il m'a beaucoup, beaucoup appris. T'sais, la chose qui m'a vraiment aidé, c'est quand, après faire ma quatrième et ma cinquième étape, partager toutes les petites cachets que j'ai jamais raconté à personne, c'est quand il a fallu regarder dans le miroir puis regarder mes défauts de caractère. C'est ça que ça m'a vraiment aidé. C'est là que j'ai vraiment, vraiment vu le changement en moi. Parce que moi, je pensais que j'étais mes défauts de caractère. Je pensais que j'étais l'ego, l'orgueil, tu sais, la colère. Si je perds tout ça, je vais être un homme de jello. Tu sais. Tout le monde va être capable de faire n'importe quoi avec moi, me mouler à leur façon. Mais j'ai lu un livre qui m'a vraiment aidé. Je sais pas si on a ça en français, mais c'est Drop the Rock. Puis ça parle du sixième et septième étape. Et les paroles que je me souviens toujours, moi, je pensais que en laissant tous mes défauts de caractère, tu sais, mon ego, mon orgueil, la colère, je pensais que je vais devenir le centre d'un bain. Tu sais, je vais juste arrêter de, tu sais, je vais pas exister. Tu sais, je pensais que j'étais tous ces défauts. En plus, moi, je suis dans les ventes. Alors moi, je pensais, il faut avoir un ego pour vendre. Tu sais, le monde ne va pas acheter de moi si j'ai pas mon ego, mais j'ai complètement oublié que, tu sais, il y a de la valeur technique aussi dans les ventes. Moi, je pensais que c'était tout du bravado, l'ego. Et ça m'a vraiment aidé parce que, comme je dis, peu à peu, puis chaque jour, je commençais à me regarder puis voir c'est quoi, tu sais, je faisais du mal. Qu'est-ce que je peux faire de mieux dans la prochaine journée? Puis la sixième et la septième étape m'ont vraiment, vraiment aidé. Même en thérapie, il a fallu faire un journal de bord à chaque soir. Puis la manière que ma conseillère m'a fait faire, tu sais, je commençais toujours par écrire ma première étape, que je suis impuissant face à l'alcool, le jeu, plein d'autres choses. Tu sais, puis je perds la maîtrise de ma vie. Je faisais un journal de bord sur la journée, tu sais, un tiers d'une page. Puis après ça, j'écrivais tous les défauts de caractère que j'ai vus dans cette journée-là. Alors, je faisais une colonne avec tous les défauts, puis à côté, je faisais une colonne de l'opposé, de qu'est-ce que je voulais avoir plus, tu sais, plus de patience, plus d'amour, plus d'humilité, plus de sérénité, tout comme ça. Par la suite, je priais là-dessus pour m'aider avec ça, tu sais. Même aujourd'hui, j'ai encore de l'ego, j'ai encore, tu sais, la colère, j'ai toujours encore ça, mais peu à peu, je commence à avoir moins en moins, tu sais. Alors, je prie pour plus de patience, plus d'amour, plus d'humilité, plus de sérénité, et ça m'aide dans la journée. Le groupe d'étapes, ils m'ont vraiment, vraiment lancé dans le rétablissement. Puis c'est ça où j'ai vraiment vu la croissance dans mon rétablissement. Comme je dis, c'est pas mon parrain aujourd'hui, mais il m'a vraiment, vraiment guidé dans le bon chemin. Il y a des choses que j'ai fait un peu moins bon, on peut dire comme ça, dans le début de mon rétablissement depuis 2015. Puis une de ces choses-là, je pense que j'avais, je recule un petit peu maintenant, mais j'avais 6 mois clean. Puis mes amis voulaient aller en Cuba, hein, tout inclus. Puis moi, je pensais, hey, c'est une bonne idée, tu sais, ça va bien dans mon thérapie, tu sais, j'ai mes gros 6 mois, tu sais, je faisais mes meetings. On a planifié tout ça. C'est juste la semaine avant qu'on a quitté à Cuba, tu sais, on a check, mon ami me dit, check la météo. Puis c'est juste la pluie pour une semaine. Puis la première pensée qui entre dans ma tête, qu'est-ce que je vais faire à Cuba, hein, tout inclus, dans la pluie, tu sais? Moi, mes plans étaient, moi, je vais être sur la plage, les autres peuvent faire comme ils veulent. J'ai décidé, OK, je dois faire au moins un meeting par jour avant que je quitte en Cuba pour être en forme. Là, j'arrive en Cuba. Tu sais, on arrive là, c'est un samedi soir, 11h30 de la soirée, puis c'est la débauche totale. Tu sais, c'est des petits de vingtaine, ça sent le vomi, puis je me dis, qu'est-ce que je fais ici? Qu'est-ce que je fais? Comme, c'est une mauvaise décision. Puis même quand je suis là, la petite voix vient me parler, puis dit, peut-être tu peux boire juste cette semaine, puis quand on retourne à Montréal, on va recommencer. Puis c'est pas la première fois que j'ai eu cette discussion interne avec moi-même. T'sais. Moi, je voyageais beaucoup avant COVID, je voyageais beaucoup pour le travail. Puis je me suis raconté cette histoire à New York, à Chicago, à Nouvelle-Écosse, à Utah, un peu partout. Je me suis raconté cette histoire, t'sais. Mais j'ai pas retourné au AA par la suite. T'sais, il a fallu que je souffre beaucoup, beaucoup. Alors cette soirée en Cuba, quand je commence à me dire « Oh, on va recommencer quand on retourne à Montréal », je dis non. J'avais mes valises pleines de littérature. Je me suis allé dans ma chambre, je commençais à lire ma littérature AA. Tout le monde, eux autres, ont fait ce qu'ils ont voulu faire dans les bars, puis moi, ça a bien été. T'sais. Puis ça m'a montré que je peux passer à travers. Mais quand je regarde ça en recul, peut-être que ce n'est pas la meilleure idée d'entendre, t'sais, avec mes 6 mois aller en tout inclus à Cuba, dans un party débauche. Alors, il y a des choses que j'ai apprises. Puis la chose que je trouve importante, je raconte ça à mes filles puis les autres membres. Parce que je connais plein de monde qui vont à Cuba aussi. Et il y a d'autres qui ont rechuté puis n'ont pas eu la chance de retourner tout de suite. You know? Alors, j'essaie de raconter ça juste pour montrer. Peut-être que ce n'est pas la meilleure idée. D'autres choses qui m'ont vraiment aidé. Je suis vraiment en gratitude envers tous les membres que j'ai racontés dans les meetings. Comme je voyageais pour le travail, mais pour le plaisir, mais je voyageais un peu partout dans le monde. Et n'importe où que j'allais, je faisais du meeting. T'sais. J'ai eu la chance, j'ai partagé partout, presque au Canada, dans Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Terre-Neuve, Sept-Îles. À chaque fois que je vais à Sept-Îles, c'est moi la vedette parce que c'est la même vingtaine de personnes qui sont au meeting. Alors, c'est moi qui partage à chaque fois Sept-Îles. Mais même internationalement, j'ai fait meeting en Irlande, en Russie, à Saint-Pétersbourg, à Colombie, à Medellin, j'ai fait meeting. La chose en Irlande, même, ils m'ont lancé devant le meeting. C'est moi qui ai animé le meeting. J'ai fait mon partage. C'était vraiment, vraiment spécial. Comme je dis, on est partout, les membres. Et c'est spécial à voir. Alors, juste une petite histoire. Puis ça va avec comment je voyais auparavant les coïncidences puis le hasard. Moi puis mon ex, on a fait le tour de l'Irlande pas mal en auto. Puis on a loué des chambres un peu partout dans des Airbnb. Puis c'était un vendredi soir, septembre 2017, je pense, ouais. On était dans le sud-ouest de l'Irlande, un petit village de pêche. Alors on est rentré un vendredi soir, la femme qui l'a loué la chambre à nous autres, il a fallu qu'elle quitte, mais elle dit « Ah, demain matin, on va se parler durant le petit déjeuner. » En tout cas, on a sorti le vendredi soir, le petit déjeuner, on mange, puis j'ai regardé, la femme portait une petite bague. Puis sur la bague, il y avait un petit triangle. Puis moi, j'ai vu ce triangle-là dans le meeting AA auparavant, tu sais. Mais je voulais pas la demander qu'est-ce que ça signifie, sa bague. Parce que je dis, peut-être c'est la bague de son mari ou son père ou quelqu'un qui a décédé, puis je veux pas être tout émotif avec elle. Alors, je dis, on va laisser ça. On finit manger, puis je dis à mon ex, je dis, je vais aller la demander. Je veux savoir qu'est-ce que ça signifie, sa bague. Alors, je la demande, puis elle me regarde toute étrange, tu sais. Elle fait une face, puis... Moi, j'ai décidé de dévoiler mes cartes en premier. J'avais un jeton de 2 ans, parce que j'avais 2 ans dans le temps, avec le même triangle là-dessus. Alors, j'ai montré mon jeton. Je dis, parce que, tu sais, j'ai le même triangle sur mon jeton que tu as sur ta bague. Puis tout de suite, elle commence à pleurer. Elle pleure, pleure, pleure. Elle vient me donner un gros câlin. Jour pour jour, ça faisait 31 ans qu'elle a pas bu. Jour pour jour. Puis elle était toute heureuse. Elle sort sa littérature. Elle dit, moi puis toi, on va faire un meeting ici maintenant. T'sais? C'était assez spécial. Puis j'ai laissé mon jeton de 2 ans à elle comme un souvenir de ses 31 ans. Puis à chaque année, je fais certaine d'envoyer un jeton par la poste à elle. Et c'est spécial parce qu'auparavant, si j'étais en train de boire, c'est certain, un, je ne serais pas debout pour un petit déjeuner samedi matin. Deux, ça serait même possible que elle aurait pu appeler les polices pour me faire sortir le vendredi soir. T'sais. Mais ça m'a montré qu'on est partout, t'sais, que j'étais sur le bon chemin, qu'on est vraiment, vraiment n'importe où que je regarde. Je suis entouré par des membres A, puis c'est vraiment, vraiment spécial. T'sais, les choses comme ça m'ont vraiment, vraiment touché. Puis j'essaie toujours de rester en contact avec cette personne-là. Ça fait 2 ans maintenant, je suis allé à la maison d'un des fondateurs d'A, Bill, la maison de Bill, aux États-Unis. Puis là-bas, le monde laisse leurs jetons sur la tombe de Bill. Et j'ai pris un 33 ans, puis j'ai envoyé la poste à la femme en Irlande. Alors, on est toujours connectés un peu partout dans les AA. C'est vraiment, vraiment spécial. T'sais. Auparavant, t'sais, quand j'étais dans la consommation, je voyais pas les choses de la manière que je les vois aujourd'hui. You know? Comme je dis, moi, j'étais type, s'il y avait quelque chose qui se passait, je disais, c'est juste... C'est la coïncidence étrange, tu sais. Mes yeux, comme... Aujourd'hui, je peux vous dire que je suis réveillé, mais dans tous les sens. Je vois les choses, je sens les choses. Pour moi, j'ai vite m'appris dans les os, c'est la spiritualité. Même si je parle de Dieu dans mon partage, pour moi, c'est la spiritualité, c'est être interconnecté avec des membres. Parce que moi, ça va bien aujourd'hui, vraiment juste grâce aux autres membres qui m'ont amené aujourd'hui où je suis.
Paul, il nous parle de l'importance du parrainage dans ce segment-là de son partage. Mais aussi, incroyable, AA, c'est international. On peut être supporté partout dans le monde, partout où on va. Ah, cette histoire-là est tellement touchante là, avec la dame de l'Irlande, avec le jeton. Un jeton dans Alcoolique Anonyme, c'est quand on fête du temps de sobriété. Alors, on peut avoir un jeton de 30 jours, de 3 mois, d'un an et ainsi de suite. Là. Alors, c'est très important pour un alcoolique, ces jetons-là. Alors, nous allons tout de suite à une pause pour rejoindre encore Paul par la suite.
Je me sentais seule, angoissée, agressive, et je m'apitoyais sur mon sort. Je voulais juste mourir. C'est pourquoi je continuais à boire. Personne n'aurait pu vivre un tel cauchemar. Puis j'ai assisté pour la première fois à une réunion des AA. À mesure qu'elle se racontait, j'ai découvert que toutes ces personnes avaient connu le même enfer. Je n'étais donc pas la seule. Elles m'ont aidée à cesser de boire et m'ont redonné le goût de vivre. Les alcooliques anonymes, ça fonctionne. Cherchez-nous dans l'annuaire téléphonique, dans votre journal ou sur aa.org.
Vous écoutez l'émission Un jour à la fois en compagnie d'Isabelle et son équipe.
Nous sommes de retour à l'émission Un jour à la fois. Si tu souhaites en apprendre davantage sur le mouvement AA, tu consultes le site internet aa-québec.org où tu trouveras, par exemple, le numéro de la ligne d'aide de ta région si tu ressens le besoin de parler, la liste des réunions près de chez toi et une foule de réponses sur la structure de ce grand organisme. Alors, nous poursuivons avec le beau partage de notre ami Paul aujourd'hui. Paul voyage au travers le monde, nous explique comment les coïncidences ou les heureux hasards de AA agissent dans sa vie spirituelle. Alors, à toi, mon cher Paul.
Tu sais, j'ai fait beaucoup de meetings un peu partout, et j'apprends de tous les messages. Il y avait un monsieur que j'ai entendu partager dans le Rive-Sud de Montréal. Et il a dit, au début, ça commence comme les montagnes russes. Puis à un moment donné, ça finit dans la lasagne. T'sais? Les hauts puis les bas deviennent un peu moins graves. Mais il va toujours avoir des hauts puis des bas. Et j'ai dit au début de mon message, la copine que j'avais, c'était devenu mon ex. Et... même si tout allait bien, tu sais, j'avais aucun désir de boire, mais après, j'avais peut-être 3 ans, 3 mois, puis j'ai terminé la relation avec elle parce que moi, j'ai changé beaucoup comme la personne que j'étais, puis elle était dans le même comportement, elle buvait encore, puis c'était pas quelqu'un que je voulais être alentour pour cette raison. C'est pas une mauvaise personne, mais c'est juste quand j'étais dans mon rétablissement, puis elle a continué dans un autre chemin, ça causait du conflit. Et... je savais que c'était la bonne décision à faire, mais quand j'ai vécu cette séparation-là, ça m'a complètement bouleversé. J'étais pas dans ma routine spirituelle, Et quand ça m'est arrivé, ça a complètement comme bouleversé mon monde. J'ai laissé tout avec elle dans l'appartement. J'ai retourné chez maman puis papa. À 33 ans, ça, comme je dis, j'étais un orgueilleux. Mon orgueil n'aimait pas ça, retourner chez maman puis papa, même si c'était pour un petit bout. Et la manière que je l'ai décrit toujours, j'étais comme un chien nerveux. Tu peux me rapprocher une journée, je suis gentil avec toi. La prochaine journée, je voulais t'arracher la face. Puis c'est, pour moi, c'est important toujours d'en parler parce que je vivais dans l'ivresse mentale. T'sais, j'étais sobre, je buvais pas, j'avais pas désir de boire, mais j'étais malheureux à l'intérieur. Mais j'ai réalisé tout qu'est-ce que je faisais pour bien aller auparavant dans les années précédentes. J'ai arrêté de faire, tu sais, la prière, la méditation, mon journal de bord, j'ai tout mis ça à côté. Tu sais, dans ce temps-là, la méditation pour moi, c'était aller sur YouTube puis trouver un chant, je mettais méditation, quelque chose, puis je m'endormais avec ça. La prière pour moi, je me réveillais dans le matin puis je disais un petit merci, rien d'autre. Et peu à peu, tu sais, j'ai arrêté de parler avec le monde des problèmes. Moi, je pensais qu'il fallait juste appeler au monde pour dire comme moi, si j'ai une idée de boire. Mais j'ai arrêté de parler de qu'est-ce que je vivais. Et j'allais tellement, tellement mal à l'intérieur de moi. Tu sais, peu à peu, je déconnectais avec le monde. Je voulais pas parler de ça dans les meetings. Même si le monde savait que je vivais une séparation, je dis, je veux pas en parler de tout ça. Tu sais, je mettais tout à côté. Et peu à peu, je commençais à questionner ma place dans les meetings. T'sais? Et j'étais chanceux de finalement prendre le téléphone puis appeler une amie. Puis j'ai demandé la question. Je dis, tu sais, tout ce que je faisais auparavant, l'implication, les fioles, tu sais, tout ce que je faisais pour le meeting, je dis, est-ce que je l'ai fait pour la bonne raison? Tu sais, ou est-ce que je fais pour mon ego pour dire, ah, j'ai fait du bien aujourd'hui? Tu sais? Puis elle m'a rassuré que je fais ça pour les bonnes raisons, que les meetings ont besoin de moi. Tu sais, elle a dit ça d'une place d'amour. Et cette soirée-là, je vivais encore chez maman puis papa dans ce temps-là. Je me suis, je sais pas comment dire en français, mais back to basics. J'ai retourné aux choses qui avaient fonctionné pour moi dans le début. T'sais, cette soirée-là, je me suis assis puis j'ai commencé à écrire un journal de bord comme je faisais quand j'étais en thérapie. Mais la chose la plus importante que j'ai fait, cette soirée-là, je me suis mis à genoux puis j'ai dit « aide-moi ». T'sais, j'ai regardé tous mes défauts de caractère puis j'ai dit « ça va me tuer ». Je suis sobre puis j'étais malheureux. J'ai dit, aide-moi, prends tout ça de moi, je veux pas vivre comme ça. Et commençant cette journée-là, à chaque soirée, je me mettais à genoux, puis je regardais ma journée, mes défauts de caractère, qu'est-ce que je peux faire mieux demain, tu sais. Puis ça fait un peu plus que 2 ans maintenant, 2 ans, quelques mois, que tout va super bien dans ma vie. Mais c'était juste à cause que j'ai commencé à remettre dans ma vie les pratiques spirituelles, la prière, la méditation, la littérature, l'écriture, tout ça, de parler, comme je dis, ça avait rien à voir avec la consommation, mais peu à peu, ça pouvait m'amener dans la consommation, tu sais, l'ivresse mentale. Et tout va bien. Puis comme je dis, je pense souvent aux messieurs qui m'ont dit, soit tu t'avances, soit tu recules, parce que moi, j'ai commencé à bien trop faire, tu sais, bien trop de fioles, bien trop de meetings, puis ils m'ont dit, tu fais trop, Paul. Mais je dis, mais j'y vais bien, tu sais, tout va bien dans ma vie grâce à tout ça, tu sais. Moi, je suis pas type qui je connais toutes les différentes cotations sur dans la littérature des AA, mais mon parrain, il me dit, ceux et celles qui rechutent sont ceux et celles qui perdent la gratitude. Puis moi, j'essaie de toujours garder la gratitude proche à mon cœur. Tu sais, je dois toujours penser à chaque, puis je le fais à chaque soirée, je regarde ma journée, puis je pense aux personnes qui ont touché ma journée, tu sais, tout qu'est-ce que j'ai dans ma vie, tu sais, ma santé, le travail, l'amour dans la vie, tu sais, des personnes autour de moi, tu sais, du monde que je passe sur la rue. Tout le monde m'affecte d'une manière ou l'autre. Puis c'est vraiment spécial à prendre, tu sais, pour moi, pour regarder tout ça, parce que tout le monde m'aide à être où je suis aujourd'hui. Tu sais, on passe dans la pandémie, puis pour moi, tout va bien, parce que je vis dans la foi, pas dans la peur. Tu sais, je dois être reconnaissant que tout va bien, tu sais, que j'ai la job, que j'ai l'amour chez moi, j'ai un chez moi, j'ai de la bouffe dans le frigo. Auparavant, je m'en foutais au complet de tout ça. De tout. T'sais, on dit dans les meetings, vivre une journée à la fois. Moi, dans la consommation, je vivais une journée à la fois parce que, comme j'ai dit au début, t'sais, je pensais pas aux conséquences. Moi, je vivais juste pour aujourd'hui, puis that's it. T'sais. Et il a fallu que je garde tous mes jours, puis je reste en gratitude parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, ça peut partir vite demain. T'sais. Auparavant, j'étais type que, je m'appelle quand je faisais le in and out des meetings, peut-être j'avais 25 ans, quelque chose, je savais pas comment vivre une journée à la fois. J'avais même pas de blonde dans ce temps-là, puis je pensais qu'est-ce qui va arriver quand je vais me marier? Tu sais, j'ai pas de blonde, mais je commence à penser à mon mariage. Puis je me dis, ah, tout le monde va boire autour de moi, puis je vais être le seul qui boit pas. Si je veux boire à mon mariage, pourquoi pas aujourd'hui? Tu sais, des choses assez niaiseuses de même. Alors, j'ai appris que je dois juste vivre pour aujourd'hui parce que c'est la seule journée que j'ai. You know? Puis, comme je dis, il faut à chaque soirée pour moi. C'est juste mon histoire, puis c'est comme ça que je le vois. Il faut que je sois reconnaissant de ma journée, puis tout ce qui m'est arrivé, bon ou mal. Parce que je sais que demain, ça va être une nouvelle journée. J'ai tellement, tellement appris dans les meetings, dans mon rétablissement, par les membres. Tout le monde m'a amené. T'sais, ils ont presque vraiment m'ont pris par la main pour me guider où je suis aujourd'hui. Je ne l'ai pas fait toute seule. T'sais, le monde qui ouvre les meetings durant la pandémie, les meetings Zoom, le Radio AA sont les membres qui prennent leur temps, puis ça m'aide, même si moi je viens partager mon histoire avec vous autres, t'sais, ça m'aide aussi. J'espère aider les autres qui m'écoutent, mais ça m'aide de venir puis partager mon histoire. Ma vie aujourd'hui, je peux même pas mettre les mots là-dessus parce que tout a changé dans ma vie. T'sais, cet été, j'ai fini faire un certificat en toxicomanie. Puis comme un bon addict ou un bon dépendant, je me suis lancé tout de suite. Maintenant, je fais un cours d'immobilier, tu sais. Mais c'est une des choses qui, auparavant, je me disais, ah, je vais faire ci, je vais faire ça. Mais dans la consommation, je faisais rien. Tu sais, j'avais des grosses idées, des idées de grandeur, puis rien se réalisait. Aujourd'hui, tout se réalise, tu sais. Pour mon 1 an, je me suis fait un cours de moto. Alors, je voulais toujours avoir une moto, puis, tu sais, des petites choses comme ça. Je sais que c'est du matériel, mais, tu sais, je me suis donné des buts, puis j'atteins les buts aujourd'hui. Auparavant, tu sais, même mon père me disait que j'étais un parasite. Parce que quand j'habitais chez eux, c'était un hôtel. Je venais chez eux, je lavais, je laissais les vêtements sales, je mangeais, puis je retournais sur le go. Tu sais, je suis vraiment gratitude pour ma famille, mes parents, les membres. Comme je dis, tout le monde m'a amené où je suis aujourd'hui. Puis je sais, puis je crois que je peux faire n'importe quoi en vie tant que je consomme pas. Parce que ça va me scraper tout. T'sais, je vois plein de monde autour de moi, soit dans la beauté, dans l'amour, ou dans la noirceur ce temps-là. Puis ça me fait triste de voir le monde dans la noirceur. Mais t'sais, j'ai des fioles qui ont eu des bébés dans la pandémie, puis c'est fun à voir, t'sais, juste comment le monde peut changer. Moi je suis un des chanceux. Comme je dis au début, j'étais un bébé miracle, puis même aujourd'hui, je me vois comme un bébé de 35 ans, encore un miracle. Parce que... j'étais chanceux de voir 25 à 30, comme je suis en thérapie, puis tu sais, peu à peu, les années passent, mais tout va bien dans ma vie. Je suis très, très, très reconnaissant du monde qui m'ont amené. Alors, j'ai entendu une femme qui a dit une fois dans un meeting, il va jamais avoir assez bonnes raisons ou assez mauvaises raisons pour aller retourner dans la consommation, puis c'est la réalité. T'sais, je veux que ça reste ma réalité. T'sais, quand je regardais dans mes étapes, ma liste des peurs puis les craintes, puis j'ai vite appris les choses vont arriver, t'sais, moi je contrôle rien, t'sais, au début j'ai dit moi je jouais le rôle de Dieu pour Dieu, mais aujourd'hui je sais il va y avoir des choses qui vont arriver que j'ai aucun contrôle là-dessus, puis je dois juste accepter. Toute la solution pour n'importe quoi le problème dans la vie, c'est vraiment juste l'acceptation. Quand j'accepte la situation telle quelle pour qu'est-ce que c'est, je sais que ça va bien aller. Puis la meilleure chose dans tout ça, quand je me couche la soirée, tu sais, il n'y a pas de la musique dans la tête. Moi, je me couche, un gros 5-10 minutes plus tard, je dors, puis c'est de toute beauté. Tu sais, j'ai devenu un petit vieux. Auparavant, quand j'étais sur le go, il y avait, comme je dis, des fois, je dormais pas une soirée ou deux soirées dans le week-end. Maintenant, si j'ai pas mes 7-8 heures de sommeil, et boy, c'est une mauvaise journée. Alors, juste pour vous dire, comme je dis, le changement, c'est possible. C'est vraiment, vraiment possible. Moi, la vie que je vis aujourd'hui, je vois ça comme un cadeau. C'est un vrai, vrai cadeau, puis je suis très reconnaissant de ça. Alors, je laisse ça ici, puis je vous remercie pour votre écoute. Merci beaucoup.
Merci, Paul. Quel beau partage. Moi, ce que je vois devant moi, c'est un homme qui vit dans la gratitude. Quelqu'un qui est responsable parce que... Paul, il fait ce qu'il a à faire à chaque jour pour se maintenir en forme spirituellement. Puis ça sauve sa vie parce que ça le garde sobre, puis aussi loin de l'ivresse mentale. Alors, moi, j'ai adoré écouter son histoire. Merci beaucoup d'être venu aujourd'hui. Alors, je tiens aussi à remercier tous les participants à cette émission, donc notre invité comme je viens de le mentionner, Paul, les auditeurs, notre équipe, on a Richard, Normand, qui sont ici aujourd'hui, collaborateurs, radiodiffuseurs. Ici votre animatrice Isabelle qui vous souhaite une bonne semaine et à très bientôt.